Bonjour, je suis Pascal.
Et je suis Aymeric. On est dans le jus, le podcast hebdomadaire qui explore le monde passionnant de la restauration au Québec.
Loin des clichés de la télé-réalité, à chaque épisode, nous recevons une ou un invité.
Elle ou il nous partage son histoire, sa passion, ses coups de blues.
Allez, c'est parti, on est dans le jus.
Moi, j'ai deux questions comme ça, là, qui m'ont un peu interpellé récemment. Tu n'es pas obligé de répondre. L'achat de Ashton, de la banquise. Ouais. Est-ce que il y a une logique? Je vois pas la logique au niveau de la franchise.
C'est drôle parce que je connais les propriétaires d'Ashton. J'ai travaillé avec leur père. Le fils, là, j'ai travaillé avec son père, qui malheureusement est décédé et tout ça. Et il y avait la cantine Tiwi. J'ai mangé chez Tiwi, moi. Fait que ça, donc j'ai travaillé avec ces gens-là. Donc, Ashton à Québec, c'est comme je dirais un safe bet. T'sais, pour les gens de Québec, c'est ce qu'ils connaissent. De décider d'acheter la banquise, personnellement, je pense il y a deux façons. Ou tu dis je vais apprendre du marché, ou tu as été séduit par une opportunité. Donc, si tu as joué juste l'opportunité, tu perds ton temps. Je trouve que c'est très prématuré parce qu'ils viennent à peine de prendre contrôle. Ils sont en plein processus de redesign de leur image, de réintégration d'image et de vouloir démarrer en franchise. Ils ne sont pas encore en franchise, ils sont corporatifs. Donc, démarrer en franchise, ça va nécessiter beaucoup de ressources de leur part. Eux, ils font une acquisition dans un marché qu'ils ne connaissent ni de blanc ni de noir. Pour des gens de Saint-Raymond, là, quand tu débarques à Montréal, c'est pas la même chose que pour le gars de Hochelaga quand il débarque à Montréal. T'sais, on est ailleurs. T'sais. Donc ça...
C'est un autre concept, parce qu'ils ont promis de garder le nom, la banquise, avec le concept.
Ah ouais, donc je comprends pas.
Ah, OK, d'accord.
Ils ont juste voulu se faire plaisir.
Ils ont voulu se faire plaisir, mais c'est
ben,
une
des
opportunité.
Fois, c'est une opportunité d'affaires. Ils ont dit, ah oui, ça va être bon pour nous autres, puis on verra. Mais bon, je trouve que c'est une diversion. Je suis un des secrets des franchiseurs à succès, là, focus. Focus.
C'est ce qui est le plus dur à avoir.
Ben oui, parce que t'es entrepreneur, tu vois des opportunités partout.
Bah, tu sautes de partout.
Ouais, c'est ça. Donc, tu perds aussi partout. Donc, ben oui, avec mes clients, souvent, on revient sur le focus. Et c'est frustrant, parce que tu dis, ah oui, mais là, on peut faire ça. Non, t'es pas focus.
C'est super dur pour un entrepreneur d'être focus.
Ben oui, c'est ça.
Ceux qui réussissent, c'est ceux qui ont un focus et qui ne lâchent pas.
T'as un petit conseil pour Elon Musk qui doit nous écouter?
Ouais, lui, c'est une autre dimension. Le deuxième truc qui m'a un peu interpellé, c'est...
Nous a beaucoup interpellé, là.
Oui, qui nous a beaucoup interpellé.
Je vois venir ta question.
C'est Juliette et Chocolat. Alors, Juliette et Chocolat qui fait faillite.
Alors, ça, c'est
pas 8 succursales, quelque chose comme ça, qui n'est pas une franchise.
Elle était franchiseur.
Ah, je pensais que c'était eux qui avaient tous les...
Non, il y en avait une.
Ah, OK.
Peut-être deux.
Et ils ferment franchise, faillite. Et là, quelques mois plus tard, mais pas beaucoup plus
quelques
tard.
Semaines. Hein,
quelques semaines plus tard.
Deux mois.
Hein, alors que c'est toujours, on est toujours... Une faillite, ça prend du temps à régler tous les dossiers, ouais. Tout ça. Et ils rouvrent sous le même nom. Et cette fois-ci, complètement en franchise. Là, moi, ça m'interpelle parce que je dis... C'est quoi l'intérêt pour les deux? Alors, je comprends le franchiseur, opportunité, peut-être de... Mais le franchisé, c'est compliqué, non? T'es pas obligé de te prononcer si...
Non, mais ben quand même, c'est malheureux. Je pense qu'il faut faire le... Quand on regarde un échec, il faut regarder les vraies raisons. On parle du financement là, dans ce dossier-là, là, qui était ça, probablement que c'est une des raisons. Mais on peut se poser d'autres questions aussi. Juliette et Chocolat, c'est un vieux concept.
Ben oui. C'est ce que disait le millionnaire, je ne sais plus comment il s'appelle. Il a exagéré. Je trouve qu'il est allé un peu trop loin
dans son
show business. Mais il n'a pas tort quelque part. S'il n'y a pas de site internet, pas de vente...
pas de vente en ligne.
Pas de vente en ligne.
Non, c'est un vieux concept. Les propriétaires vont tout faire pour que ça fonctionne, là, ça je suis conscient. Puis c'est correct. Le point, c'est quand on va vers la franchise, il faut être solide financièrement. Parce qu'un franchiseur pauvre, ça fait des franchisés pauvres. Puis ça, je l'ai vu trop souvent. C'est comme si on avait l'espoir que la franchise va amener la rentabilité qu'on recherche. Quand je regarde un client, moi, je dis, premièrement, il faut que tu réussisses avant de franchiser. On franchise pas pour réussir. Parce que si toi, tu n'es pas capable de réussir, comment veux-tu être crédible, solide, avec un réseau de franchisés qui vont te regarder et vont dire « Hey, toi, tu n'as pas réussi. Qu'est-ce qui va faire que moi, je vais réussir? » Alors là, qu'est-ce qui se passe dans ce temps-là? C'est que tu vas avoir des gens qui vont acquérir des franchises. Je ne fais pas mon demain, là. Probablement quelques-unes. Et malheureusement, the shit is going to hit the fans twice. Parce que le franchiseur, malgré tout, sa bonne volonté, puis je ne dis pas que les propriétaires sont de mauvaise foi, c'est qu'ils ne comprennent pas la franchise. Si tu fais ça, tu te mets dans le trouble en partant. C'est des morts-nés que tu vas mettre en place. Alors, ces gens-là qui vont mettre des sous, puis des vrais sous, là, c'est pas donné. Un, il achète un concept qui est vieillissant. Il n'est pas à la page, là, ce concept-là. Il a été à la page pendant quelques années, mais là, c'est le temps de revamper avant de repartir. Donc, il faudrait que tu remettes en place un nouveau concept, refaire ta job comme il le faut, prouver que c'est rentable, faire quelque chose. De là, tu peux peut-être être crédible pour dire, bon, on a une marque, on est reconnu, voici le nouveau concept, pour toutes les bonnes raisons que j'expliquais tantôt, puis voici notre proposition dans le marché, puis on peut y aller. Tu sais, en franchise, un concept, ça vieillit quand même. Donc, tu sais, je pense qu'aujourd'hui, dans le monde d'aujourd'hui, un franchiseur en restauration, il faut qu'il propose probablement à tous les 5-7 ans un nouveau concept au marché et les plus vieux vont se rénover pour s'intégrer au nouveau concept. L'exemple le plus pétant, c'est McDonald's. Tu sais, il ne faut pas être fou, là. C'est McDonald's, ils ne sont pas fous, là, dans ce qu'ils ont fait. Ils savent que le burger est en train de tomber. Ils ont travaillé sur le café comme des malades pendant des années. Et là, ils ont dit « OK, on est prêt. » Boum! On fait des cafés. Puis maintenant, c'est des McCafé avant des McDonald's. Et là, ils sont en train de travailler, j'ai vu un concept, McCos, ouais. Ça, où c'est juste des breuvages. Ça, c'est des franchiseurs qui comprennent la réalité de la franchise. Je ne veux pas dire qu'ils sont parfaits, mais ils ne resteront pas statiques. Puis un franchiseur qui reste statique, ça meurt.
C'est quoi l'exemple le plus emblématique d'une franchise réussie? Est-ce que c'est McDonald's?
Ben, je pense que celui-là, c'est une franchise qui perdure dans le temps. Ça, on peut quand même le dire. Là.
C'est coûte cher d'en acquérir un quand même.
Ça, quoi, c'est pas donné.
5, un truc comme ça.
Ouais, ben, même aujourd'hui, peut-être un peu plus. Là. Mais je pense que ça, c'est l'exemple d'un franchiseur qui perdure dans le temps et qui est devenu, comment je dirais ça, très stratégique, très gros. Quand on connaît un peu McDonald's, ce que les gens comprennent moins, c'est que McDonald's, c'est une culture. Oublie le fast-food, oublie ça, c'est une culture avec les franchisés. Les franchisés McDonald's ont du ketchup dans les veines, c'est ça qu'ils disent, eux autres. Là. C'est que l'ADN de McDonald's, ils font tout ce qu'ils peuvent pour que ces franchisés-là soient dans l'ADN McDo. On parlait des valeurs et tout, là. Tu parles à un franchisé McDonald's, tu parles à un autre, le discours, il ne sera pas beaucoup, il ne variera pas. T'sais? Eux ont réussi ça, et c'est ça qui fait qu'ils peuvent se propulser dans l'avenir, puis continuer malgré toute l'adversité qu'ils ont vécue, parce qu'il y en a eu des phases super dures. Ils sont passés à travers, et ils vont encore passer à travers. Parce que c'est des gens qui ont de la vision, puis des franchisés partagent ces mêmes réalités-là. Là, aujourd'hui, ils ont tout un autre défi, là, c'est que ces premiers franchisés-là, tout ça, bien, ils ont vieilli, tout, là, ils sont dans la relève, et la relève, elle est multiculturelle, donc eux aussi, il faut qu'ils s'adaptent. Parce qu'avant, on s'entendait, là, on s'entend à McDo, là, c'était assez straightforward, même genre de monde, même genre de profil. Là, aujourd'hui, ça a changé beaucoup. Mais ça, c'en est un qui a perduré dans le temps. Aujourd'hui, des exemples en restauration qui fonctionnent très bien, que je connais. Moi, je regarde Poulet Rouge, mm-hmm. Qui ont réussi, là où plusieurs ont échoué. Ils sont en grosse croissance. C'est des clients à moi, là, mais ils sont en grosse croissance.
C'est quoi le concept, l'élément clé du concept de Poulet Rouge qui fait qu'ils ont réussi?
Ben, ils ont deux choses.
Ils ont un bon coach?
Non, mais le coach, il avait réussi un peu avant. Là, fait que le coach, ça, c'est pour les aider à aller à l'autre niveau. Mais non, l'idée, c'est je pense qu'eux ont compris quelque chose qu'on peut perdre de vue très rapidement. Le client avant tout, il faut qu'il en ait pour son argent. Alors, eux travaillent sur la valeur. Okay. Oublie le reste, là. Tout ça, c'est de la technique, c'est de l'apprentissage. Ils ont tout ce qu'il faut. Ils ont une équipe extraordinaire dédiée. Mais le client, quand il consomme Poulet Rouge, il est content. Et ce contentement-là, c'est un peu comme un virus. Ça se propage très rapidement. Ça, c'est une chose. Deuxièmement, ils ont une culture d'entreprise qui se renforce de jour en jour, là, parce que leur leader, c'est un super gars qui est vraiment là, qui est fort, Moussa. Mais la culture d'entreprise est de plus en plus axé sur les valeurs ici et ça. Parce que ce n'est pas l'argent qui est le problème dans cette chaîne-là. C'est s'assurer que tout le monde suit avec les bonnes valeurs, puis tout le monde intègre les nouveautés. En plus, il y a un modèle d'affaires qui est un peu qui est dans le nouveau genre, c'est-à-dire des franchisés multi-unités et pas beaucoup de franchisés solo-unités. Parce que ça aussi, c'est dans le nouveau genre de franchise. Là, parce que les franchiseurs ont compris que des fois, un peu moins de personnes à travailler avec, qui ont quelques unités chaque, ton impact peut être plus rapide que de continuellement travailler avec des franchisés individuels. Mais leur modèle d'affaires, ça prête très, très bien à ça. Alors ça, c'est un exemple d'un franchiseur d'aujourd'hui là, qui a compris des affaires. Puis si tu regardes Poulet Rouge, tu regardes l'image, tu regardes ça, tu regardes la techno, tu regardes la capacité de servir rapidement, etc., et la constance en qualité, tu n'as pas beaucoup de variations.
Combien d'unités ils ont?
Là, ils sont à presque 40. Ils vont être vont grossir en Ontario, grossir encore au Québec. Je peux pas, je n'ai plus de chiffres, là, mais ils vont être. Ça va être un réseau majeur au Québec et au Canada dans si peu d'années.
Est-ce que leur objectif, c'est d'être acheté par MTY ou Foodtastic?
Aujourd'hui, je pense pas que c'est dans leur monde. Non, c'est pas ça. Puis je pense pas que c'est. Tu vois. Ces gros groupes-là ont des qualités, mais ont aussi beaucoup de défauts. Fait que des fois, ça dépend de ce que tu veux comme relation après dans le futur. Tu t'en vas, c'est pas grave, mais ça dépend aussi. Il faut quand même passer aux franchisés. Et cette culture, bien, comme eux autres, comme d'autres, j'en ai d'autres. Tu as des clients qui vont avoir 100 unités là, dans les prochains 5 ans. C'est sûr que tu regardes toujours un peu comme franchiseur, c'est quoi, moi, ma stratégie de sortie. Ces groupes-là sont intéressants, mais il y a d'autres choses qui s'est pointées à l'horizon depuis quelques années. C'est les fonds d'investissement. Qui d'ailleurs supportent les gros franchiseurs, mais souvent, c'est des fonds d'investissement qui vont être dans un type, qui sont plutôt low profile, et qui vont même faire des deals d'affaires où ils vont conserver le management pendant « peux-tu rester », etc. Mais beaucoup de fonds d'investissement maintenant ont compris que la franchise, c'est un placement qui peut être extrêmement rentable pour eux. Parce que les multiples d'évaluation maintenant sont rendus très, très hauts. Fait que c'est vraiment intéressant.
On ne va pas te retenir plus longtemps. Merci pour tout, pour ton temps.
On finit sur les fonds d'investissement.
Ouais.
Oh là là.
Ce sera un autre épisode peut-être.
Non, on ne fera pas. On fera pas l'épisode sur les fonds d'investissement.
Merci pour tout, Stéphane.
Ben, de rien, ça fait plaisir. Puis,
merci beaucoup, merci aux auditeurs de nous avoir écoutés.
Vous devriez l'écouter quoi qu'il arrive, cet épisode, parce que si vous voulez être en franchise ou devenir un franchiseur, c'est vraiment important que vous connaissiez l'état d'esprit et toutes les procédures.
Merci à vous. Si vous voulez nous regarder, on est sur YouTube. Si vous voulez nous supporter, on est sur Patreon. Et si vous voulez savoir l'actualité dans les dents de jus, on est sur Instagram. Ciao.
Ciao, ciao.
Bye.